Bonjour, je vous propose ce matin une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 3 janvier 2009 à l'occasion d'un des nombreux projets de loi sur le travail le dimanche. C'est un sujet récurrent. J'avais invité pour cela Alain Corbin, le grand historien des sensibilités. L'émission s'intitulait « Le dimanche, repos depuis toujours ?»
Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Non, vous aimez beaucoup le dimanche? Non, il y a deux solutions. Ou bien on aime quelqu'un. Et alors, il n'existe ni jour de semaine, ni jour de fête, ni jour férié. Et l'emploi du temps est normal. Ou bien alors, on n'aime pas quelqu'un et on s'ennuie affreusement.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le dimanche s'invite durant la semaine ouvrée, la semaine des débats parlementaires. Les discussions de nos élus sur le travail dominical vont reprendre à la mi-janvier au Palais Bourbon, après avoir commencé à la fin de l'an dernier dans une atmosphère très agitée. Et on s'aperçoit bien vite que cette affaire dépasse la seule question de l'organisation du travail. Elle concerne en profondeur les rythmes d'une société, les relations qui s'organisent de génération en génération avec les temporalités de la vie quotidienne. Et elle s'enracine dans la longue durée. La longue durée des pratiques religieuses du christianisme, célébrant le jour du Seigneur et consubstantiellement attachée à cette rupture hebdomadaire qui assure la pratique du culte et la présence des fidèles à la messe. La longue durée des luttes sociales, pour un labeur limité dans les classes populaires, quelles que soient les pressions exercées sur elles au nom de la productivité et au service du profit. La longue durée enfin des loisirs profanes, qui appelle souvent l'ouverture le dimanche de lieux d'échange, de commerce et de plaisir, voués à faire travailler un bon nombre d'employés qui, du même coup, sont arrachés eux-mêmes au repos hebdomadaire. Alain Corbin, professeur émérite à la Sorbonne, qui a ouvert tant de voies nouvelles dans le champ des sensibilités collectives et que j'ai toujours ici grande satisfaction à accueillir, va nous conduire en arrière pour traiter de l'histoire du dimanche du 19e siècle jusqu'à nos jours.
Tu m'avais dit un samedi, demain c'est le jour des folies. On a 20 ans et le printemps chante l'amour, chante la vie. Quel beau dimanche que celui-là, la route est blanche, tu prends mon bras. Tu sais me dire dans un sourire l'amour que je t'inspire. Tout est en fête sous le ciel bleu, lourde est ma tête près de tes yeux. Si tu te penches, Dieu, quel émoi, quel beau dimanche que celui-là. Mais les beaux jours, hélas, sont courts. Déjà l'hiver frappe à la porte, malgré le temps, le cœur content sourit encore aux choses mortes. Quel beau dimanche que celui-là, ma tête est blanche, tu prends mon bras. Tu sais me dire dans un sourire les mots que je désire. sur la grande route du souvenir. Je ne redoute pas l'avenir. Ma tête est blanche, tu tiens mon bras. Quel beau dimanche que celui-là. Ma tête est blanche, tu tiens mon bras. Quel beau dimanche que celui-là.
Lise Gauty chantait « Quel beau dimanche » en 1935. Alain Corbin, bonjour.
Bonjour.
Cette affaire du dimanche occupe les premières pages de nos journaux. Elle est très, très brûlante, mais vous nous montrez que ça n'est pas nouveau et qu'en réalité, elle a été débattue avec énormément de force et de passion, très souvent et en particulier en France, entre 1890 et 1906.
Oui, c'est quelque chose qu'on a oublié. On pense toujours aux congés payés de 1936 qui ont été extrêmement importants, etc. Mais on oublie que la loi sur le repos hebdomadaire de 1906 a créé beaucoup plus d'agitation, beaucoup plus de conflits, a donné lieu à infiniment plus de débats que les congés payés. Donc, ce qui se produit aujourd'hui n'est pas d'une certaine façon étonnant, parce que ça se réfère à des données conflictuelles extrêmement, extrêmement fortes et extrêmement enracinées.
Les controverses au Sénat et à la Chambre des députés ont été extraordinairement passionnées.
Et il y a eu 4 propositions de loi qui ont avorté. En 91, 96, 97, 1900, avant d'aboutir à la loi de 1906, mais surtout dans la rue, il y a eu même des échauffourées, il y a eu des violences.
Les associations spécifiques se sont constituées pour
Oui, bien sûr, des deux côtés, il y avait des associations pour et des associations qui étaient hostiles à cette loi. Et en plus de ça, la presse s'est déchaînée. Il y a même eu des organes de presse spécialisés, sans compter les tracts, les brochures, les conférences. Ça a été quelque chose qui vraiment a agité les esprits.
Quel que soit l'intérêt et peut-être les passions qui vont entourer les débats dans quelques jours au Palais Bourbon, il sera intéressant de se rappeler cela et nous allons nous efforcer d'y contribuer, Alain Corbin. Il faut essayer de comprendre pourquoi tant d'intérêt, tant d'émotion autour de cette affaire. Je pense que, comme toujours, il faut remonter loin en arrière. On touche là à la charpente temporelle, en fait,
oui,
d'une société.
Je crois que chaque société, chaque groupe, chaque individu a sa propre charpente temporelle. Et toucher à ça, c'est extrêmement grave, extrêmement sensible. Surtout à propos des jours fériés. Les jours fériés, au début du consulat, ça a créé aussi des problèmes extrêmement graves. Portalis, chargé par le premier consul Bonaparte de définir la liste des jours fériés, on a supprimé beaucoup par rapport à l'Ancien Régime, et pendant au moins 30 ans, il y a eu des résistances dans les campagnes, les gens voulant continuer de considérer comme fériés des fêtes supprimées. Les fêtes supprimées, c'était le terme officiel d'ailleurs, utilisé par les préfets qui luttaient contre la célébration des fêtes supprimées. Donc, c'est simplement pour expliquer que quand on touche à la charpente temporelle, ça crée des résistances.
C'est vrai aussi dans l'ordre patriotique. On se rappelle comment Valéry Giscard d'Estaing a été obligé de revenir en arrière au début de son septennat, en 74, quand il a voulu que le 8 mai ne soit plus chômé. Alors, tâchons d'expliquer ça. D'abord, dans la longue durée, il faut remonter en fait jusqu'à la Bible.
Oui, je crois que les origines chrétiennes, évidemment, de la célébration du dimanche sont évidentes. Elles sont en quelque sorte à double entrée. Il y a la Genèse dans la Bible, Dieu qui crée le monde et qui, le septième jour, en quelque sorte, a terminé son travail pour célébrer en mémoire de la création du monde, pour donner un sens à la création du monde. Le repos dominical se justifie.
Dieu se repose.
Mais oui, ça c'est des interprétations peut-être
un petit peu
familières. Mais
presque
la deuxième entrée, c'est que le dimanche est aussi le jour de la résurrection. Et c'est peut-être là l'essentiel. Et donc, en souvenir de cette résurrection du Christ, c'est un jour consacré au service de Dieu, c'est un temps qu'il convient de bénir pour les catholiques et pour les chrétiens et qui s'inscrit dans un temps cérémoniel, c'est-à-dire que on célèbre la messe, les vêpres, etc., dans chacune des paroisses.
On peut peut-être y trouver d'ailleurs des traces de paganisme antérieur. Après tout, Sunday, Sonntag, oui, c'est le soleil, c'est le soleil. Enfin, le mot dimanche est exclusivement formé à partir de Dieu.
De Dieu. Effectivement, il y a beaucoup de travaux actuellement sur les premiers temps de l'Église, donc il faut être très prudent, mais il semble que cette célébration ne se soit véritablement imposée que vers le IIe siècle. C'est d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, en 321, c'est-à-dire au début du IVe, que Constantin l'impose. Mais auparavant, il y a, selon les familles, selon les églises, c'est-à-dire celles qui sont restées proches du judaïsme qu'on appelle judéo-chrétienne, hein, reste fidèle au sabbat un certain temps. Et puis,
le samedi, donc hésitation
il y a
un instant
hésitation,
entre
voilà.
Le samedi et le dimanche. Le troisième commandement de Dieu est « Les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement ». Et cela s'impose en fait au Moyen-Âge.
Oui, mais Jacques Le Goff a bien montré, là encore une fois pour aller très vite, que dès le milieu du Moyen-Âge, il y a une sorte de tension qui ne fera que s'aviver au XIXe siècle, par exemple. C'est-à-dire que là, il y a une lutte pour contrôler le temps du repos, qui est aussi temps festif. Et par conséquent, une lutte entre l'Église elle-même et les communautés.
Entre la communauté urbaine. Entre le sacré et la fête profane, déjà.
Oui,
c'est ce qui
d'une certaine façon.
Tension.
Et au début du XIXe siècle, cela est très vif. Je prends par exemple le cas du curé d'Ars, dans sa petite commune d'Ars. Il a lutté farouchement contre tout ce qui était un dimanche profane.
Jean-Marie Vianney.
Un dimanche festif, profane, de danse, etc., de la jeunesse, alors qu'il voulait en quelque sorte faire du dimanche une sorte de journée de pèlerinage pour conduire toute sa communauté paroissiale vers Dieu, si vous voulez. Ce qui a valu en 1830 à de nombreux curés, dont lui, de danser sur la couverture, c'est-à-dire d'être victime de troubles anticléricaux.
Danser sur la couverture.
Le dimanche,
danser sur la couverture.
C'était un véritable enjeu entre le cérémoniel, le sacré et le festif profane.
Danser sur la couverture, juste une parenthèse, je ne connaissais pas la formule.
Oui, ça consiste à se mettre à quatre, à mettre la victime sur la couverture et à le faire sauter un petit peu gentiment, quoi.
Très bien, très bien. Revenons à notre sujet. La Révolution française est intéressante à cet égard puisqu'elle cherche à rompre explicitement avec cette structure temporelle dont vous nous parliez, avec l'instauration. Il ne faut pas l'oublier, du décadisme.
Oui,
on transfère du septième jour au dixième jour le temps de repos hebdomadaire.
C'est très intéressant parce que ça confirme ce que je disais initialement.
Heureusement.
C'est-à-dire la force de résistance, le décadis, c'est un joli mot, et puis c'est assez logique dans le système décimal, le dixième jour. Eh bien, le décadis n'a pas véritablement pris. Et finalement, il a été supprimé en 1806.
Il a fallu une quinzaine d'années pour qu'il disparaisse. Et au fond, oui. Napoléon s'en est un peu désintéressé à laisser revenir l'habitude du dimanche.
Oui, d'autant que, pour reprendre une formule de Portalis, donc spécialiste durant le consulat auparavant, donc,
l'auteur du Code civil,
il importe que le peuple travaille. Formule lapidaire, c'est dans la mesure où il importe que le peuple travaille, il faut le faire travailler, il vaut mieux le faire travailler le plus possible, d'où ces fêtes supprimées, d'où tout ce travail sur la charpente temporelle qui conduit à minimiser les jours de repos, en fait.
Je pense que ni Portalis, ni le curé d'Ars n'auraient beaucoup aimé la chanson que je vais vous faire entendre, « Fermé jusqu'à lundi », Mireille et Jean Sablon, 1936.
Oui, le temps de mettre mon chapeau, un peu de poudre, et je suis à vous.
Faites vite, mon chou, faites vite, il fait si beau.
9, 10, 11, 12, midi.
Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos, lorsque l'horloge sonne, midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi.
Et si l'on téléphone, bah tant pis, tant pis, le patron, la patronne, tout le monde est parti.
Michel est à la pêche,
Lulu chez des amis.
Et Robert se dépêche
d'aller retrouver Mimi.
On a mis sur la porte avis, avis.
Aux raseurs de toutes sortes,
fermés jusqu'à lundi.
Tous les jours, le chef comptable me fait sans en avoir l'air.
Quoi donc ?
Un peu de pied sous la table, et ça me tape sur les nerfs.
Oh, par exemple.
Lorsqu'il me dicte une lettre en faisant le plaisantin.
Oh,
je ne sais plus où me mettre, mais le samedi matin, lorsque l'horloge sonne midi, il me dit ma petite mignonne, n'est donc jusqu'à lundi. Je réponds mon vieux bonhomme, merci, merci, mais pour voir votre pomme, toute la semaine me suffit. Non, vraiment, je regrette, mais vous voyez là-bas, mon amoureux me guette. Et je vole dans ses bras. Oh, il est jeune, il m'emporte chez lui, chez lui.
Chérie, je vous emporte chez moi jusqu'à lundi.
Mon amoureux me guette, je vole dans ses bras.
Ce sont deux jours de fête dans la petite maison là-bas.
On a mis sur la porte avis, avis. Aux raseurs de toutes sortes,
fermés jusqu'à lundi.
Donc au moment du retour des Bourbons, qu'interviennent successivement un décret et une loi importante à propos du dimanche, Alain Corbin.
Oui, qui impose le repos dominical, c'est-à-dire du dimanche. Et je crois la date est très intéressante parce que c'est dès novembre, 18 novembre 1814. Ça signifie que c'est une des premières lois votées après le retour des Bourbons. On n'a pas attendu. Ça signifie qu'on considérait que c'était très important.
Dominical et pas hebdomadaire.
Voilà. On considérait que c'était très important de rendre au jour du Seigneur toute sa valeur. Cette loi a toujours été plus ou moins bien appliquée, il faut le dire. Et dès 1830, au moment où la religion catholique cesse d'être religion d'État, au moment donc de l'instauration de la monarchie de Juillet et du règne de Louis-Philippe, on peut dire que dans les campagnes, elle est plus ou moins bien appliquée, encore une fois. Hein. Surtout en période de moisson et de fenaison.
Voilà. Il faudra attendre 1880, la loi du 12 juillet, pour que celle de 1814 soit
véritablement abrogée.
Et il est intéressant de regarder de plus près la manière dont progressivement cette évolution des esprits, des comportements et des législations s'est opérée.
Ça montre d'ailleurs l'importance accordée à ces choses-là. Parce que autant la loi de 1814 était symbolique du retour des Bourbons, l'abrogation en 1880 de cette loi et marque le triomphe de la République. C'est une des premières lois, des premières grandes mesures, disons, puisque c'est une abrogation, des premières grandes mesures républicaines. Symbole est là.
Apposé à côté de la loi sur la presse ou les lois sur l'éducation de Jules Ferry.
Oui. Le symbole du dimanche est là, et ça montre l'importance. Entre 1814, 1880, 1906, et ce qui se passe aujourd'hui, il y a une continuité évidente.
Ce qui poussera sûrement nos députés, qui sont très républicains, à ne voter qu'en tremblant dans quelques jours.
Oui, on peut l'interpréter comme ça.
Alors comment cette montée s'explique-t-elle? Comment la vie, l'histoire sociale, l'histoire des sciences, de l'hygiène peuvent-elles permettre de comprendre ce qui s'est passé? D'abord, il y a la vie privée.
Ah oui, il y a énormément de facteurs qui ont conduit au triomphe, en quelque sorte, du repos du dimanche. Il y a d'abord effectivement l'emprise de plus en plus grande de la vie privée, du foyer conjugal. Même dans les milieux ouvriers, notamment sous le Second Empire, Jeanne Gaillard l'avait bien montré, il y a ce qu'elle appelle une familialisation du monde ouvrier, c'est-à-dire un repli sur la famille. Prenons l'exemple du Saint-Lundi. Pendant très longtemps, les congés pour les ouvriers étaient pris le lundi. Les hommes entre eux allaient au café, buvaient, on disait qu'ils se livraient plus ou moins à la débauche, etc. Enfin, c'était un entre-soi masculin.
C'était les moralistes qui le disaient, c'était les médecins.
Voilà. Et la femme, donc, s'occupait du ménage, des enfants, etc., mais seule. Alors, il est évident que la densification des sentiments familiaux, la densification donc de tout ce qui constitue la vie privée, la sphère familiale, a joué en faveur du dimanche. De ce point de vue-là, c'est une des grandes causes du triomphe du dimanche.
Il y a aussi la diminution du temps de travail, qui est l'effet des combats syndicaux et qui est peut-être l'effet de, aussi de l'évolution de oui, la nature de l'industrie.
Bien sûr, le train, disons
la tendance.
La tendance au cours du 19e et du 20e siècle, c'est de diminuer le temps de travail. Quoi qu'on en ait dit, il ne faut pas oublier en revanche que ce temps de travail était de plus en plus dense et de moins en moins poreux. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, quand on travaille véritablement, et de plus en plus. Il y a une disciplinarisation là, de la main-d'œuvre. Il n'en reste pas moins que la longueur du temps de travail a diminué. Les lois de 48 imposant 10 heures à Paris et 12 heures de travail en province, auparavant la loi de 1841 sur le travail des enfants, etc., etc. De nombreuses mesures qui conduisent à 1906. Donc, ça n'a pu que favoriser l'idée d'imposer un jour de repos. Mais il y a, comme vous le disiez aussi, l'histoire de la science et l'histoire de l'hygiène. Et je crois que ça a été peut-être encore plus important. Il y a beaucoup de travaux de psychophysiologie à la fin du XIXe siècle qui concernent la fatigue, le surmenage...
L'obsession de la dégénérescence.
La mesure de la fatigue, la crainte de la dégénérescence, tout cela accordé au souci de la dignité du travailleur. Tout ça a joué... L'hygiène, proprement dite aussi, c'est-à-dire l'idée qu'il faut du temps pour être propre. Avec le triomphe de la révolution pasteurienne, l'idée donc que le microbe peut être combattu tout simplement par l'hygiène des mains, l'hygiène corporelle, les douches, le lavage des ustensiles de cuisine, le lavage de tous les ustensiles dans la maison, le triomphe du lys dans les salles de bain, tout ce que vous voulez, fait que l'idée d'accorder une journée, en quelque sorte, ne pouvait que favoriser le développement de l'hygiène et donc la lutte contre la maladie.
Qui va se poursuivre très longtemps, puisqu'on
parlera sanitaire, en fait.
La jeunesse en plein air encore après, dans les années 50, dernier temps de la lutte contre la tuberculose.
Oui, alors là, c'est encore une autre donnée, c'est évidemment tout ce qui concerne le souci des médecins de prôner le plein air, la partie de campagne. Le loisir à la campagne le dimanche, évidemment, va devenir, dans les milieux parisiens notamment, et dans les milieux des travailleurs parisiens, quelque chose d'absolument essentiel, qui a été célébré de toutes les manières, par le théâtre, par le cinéma plus tard, par la chanson.
Et par la radiodiffusion, pour écouter cette archive.
La radiodiffusion française présente l'Almanach de l'Union française. Aujourd'hui, les beaux dimanches.
Les beaux dimanches de printemps, quand on a les arbres sont, danser sous les lampions tremblants ou s'allonger sur le gazon. Comme des oiseaux dans les buissons, on s'embrassait à chaque instant, quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps.
C'est bien l'occasion de chanter la chanson, mais dites-moi, c'est au bout du diable votre Robinson?
Comment, il n'y a pas un quart d'heure que nous avons quitté Paris et son quartier latin.
Quelle foule!
C'est ainsi chaque dimanche. Regardez cette énorme chenille multicolore qui chemine sur la pente verte du coteau. Ces couples, ces étudiants, ces employés, ces midinettes qui vont par groupe en chantant, toute cette joyeuse compagnie se rend à Robinson pour danser dans les guinguettes ou folâtrer dans les bois.
Vous m'avez l'air d'être un habitué des lieux.
Mais Colette, tous les étudiants connaissent Robinson.
Je vais vous faire un aveu. Ce nom de Robinson m'a toujours intriguée. Lorsque j'étais gamine, il faisait même drôlement trotter mon imagination.
Ah ah, eh bien, en voici l'histoire. Il y a juste un siècle et deux ans, c'était en 1848, un limonadier, le père Gesquin, eut l'idée géniale de construire dans un vieux châtaignier plusieurs fois centenaire des huttes à la Robinson, où les clients pouvaient se faire servir des consommations.
Excellente idée!
C'est ce que pensaient aussi les aubergistes du coin, et les vieux arbres de la colline se peuplèrent bientôt de nids d'amoureux. Ce fut un succès. Du coup, le village changea de nom et de Plessis-Piquet devint Plessis-Robinson. Tenez, voici la première hutte. Y voulez-vous monter ?
Oh non, non, je vois très bien d'ici.
L'échelle est solide. Et puis, Colette, nous ne serions pas obligés de faire comme dans la chanson. On s'en allait alors à Robinson scandaliser les gens le dimanche.
On s'en allait à Robinson scandaliser les gens le dimanche. Mais alors nos grands-mères n'étaient pas si sages que ça.
Je n'ai pas de conseils à vous donner, Colette, mais vous n'êtes pas obligée de les croire tout à fait quand elles vous disent « De notre temps, on ne faisait pas cela. » Ou encore « Autrefois, une jeune fille n'aurait jamais... »
Comme vous les connaissez.
Il y a un fait certain, c'est qu'elles ne venaient pas comme nous en chemin de fer. La promenade était plus longue et ménageait aussi plus de surprises. Nos jeunes grand-mères s'en venaient de Sceaux au trot menu des ânes, chercher citerre à Robinson. Comme des campanules, capotes, cabriolets, bonnets à barbe et robes à cloches fleuries dansaient parmi les blés, les vignes et les bosquets. Mais je suis un terrible bavard. Si nous entrions dans cette guinguette, celle-là même qui a donné son nom à Robinson.
C'était Alain Corbin, c'était un extrait de l'almanach de l'Union française en date du 20 juin 1950. Le but était, je pense, de faire rêver nos territoires d'outre-mer au charme de Robinson. Je suis frappé par la notion de scandale, nos grands-mères scandalisées. On arrive là à une donnée importante, qui est le regard moral sur le dimanche et sur l'oisiveté, les avantages et les inconvénients du dimanche.
Oui, parmi les partisans du dimanche, beaucoup m'ont souligné la valeur morale du repos du dimanche. Pourquoi ? Aujourd'hui, ça peut nous paraître un peu étonnant. Parce que, évidemment, il y a le risque de l'oisiveté. L'oisiveté, évidemment, est mère de tous les vices. C'était la tradition, ça. Mais beaucoup ont souligné, justement, dans la perspective de la vie privée que j'évoquais tout à l'heure, que le repos du dimanche faciliterait le mariage. Et donc, permettrait de lutter contre l'union libre, en particulier dans le milieu des travailleurs. Et qu'en facilitant le mariage, ils avaient l'impression que cela entraînerait moins de divorces.
Parce que le promis part avec sa promise à
oui,
la campagne du dimanche.
Oui, moins d'adultère. Et aussi, plus de conception. Puisque ce temps libre ne pourrait être que favorable aux unions sexuelles.
Ça, c'est déjà un peu une chanson ultérieure bien fameuse. Chanson ultérieure qui s'appelle « Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet » de Pierre Détail. Chanson des années 50, c'est bien l'idée d'une conception grâce au dimanche.
Et dans la même perspective aussi, parce que moins d'alcoolisme. J'en parlais à propos de saint lundi. J'ai lu aussi qu'il était question que d'un autre avantage qui m'étonne, je ne vois pas très bien, la relation, l'idée que le repos du dimanche faciliterait l'épargne.
Pourquoi non ?
C'est cette idée que la famille étant plus morale, si vous voulez.
On compte ses sous le dimanche.
Voilà, plus refermée sur elle-même. Le mari serait moins dépensier, irait moins dépenser la paye, vous savez, au café. Évidemment, tout ce qui favorise le repli sur la famille et sur la vie privée et favorise la morale, quoi. Grosso modo, c'est ça. L'idée aussi que le travailleur pourra bricoler. Le bricolage est une notion extrêmement importante à la fin du 19e et au cours de la première moitié du 20e siècle.
Le mot date, l'expression date de ce moment-là ?
De la part, oui, les employés. Il y a même des revues durant la première moitié du 20e. Et l'idée que le bricoleur reste à la maison, toujours la même chose, si vous voulez, que ça ne peut être que profitable à la morale.
Le marteau,
aussi,
le marteau contre le zinc, en somme.
Et en plus de ça, il est évident que l'intérieur sera plus facilement propre, etc., si le bricoleur est en permanence là, en permanence les dimanches. Alors, on glisse là, à mon avis, vers l'importance du temps pour soi.
C'est concomitant avec une certaine montée de l'individualisme
oui.
qu'on observe dans ces temps-là.
Oui. L'idée que l'individu a besoin d'un temps pour lui, hein, la notion de temps pour soi, pour méditer, c'est peut-être un bien grand mot, on dirait aujourd'hui pour se retrouver. D'où l'importance d'ailleurs à ce moment-là de la pêche à la ligne, qui est un temps de face à face avec soi-même, plus peut-être qu'avec le poisson, bien entendu. Toutes ces balades, toutes ces... Je pense par exemple au carnet, pour vers les années 1940, le carnet de René Fallet, le romancier René Fallet, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, l'importance de la balade en vélo, quand on a du temps libre, le dimanche. La balade en vélo.
Oui, il y a toute une tradition.
Le développement de formes de sociabilité, mais qui sont liées à ce temps pour soi. L'apéritif, l'habitude de l'apéritif à 3, 4, à 6, si vous voulez, mais enfin dans un petit cercle.
L'apéritif n'est pas dangereux pour l'alcoolisme, alors ?
Petit cercle d'amis. Non, c'est autre chose, du point de vue de la sociabilité. ça n'a pas été critiqué de la même façon. Entre le fait de s'alcooliser au cabaret en 1850 ou de prendre l'apéritif avec des amis le dimanche midi, il y a une grande différence.
Et puis c'est autre chose d'aller à la campagne, à Robinson ou ailleurs, ou d'aller seul au Beuglant, au Cafcons, le soir, avec l'atmosphère enfumée que redoutent tant les moralistes.
Et la montée aussi de l'individualisme se répercute dans l'exhibition du corps. L'exhibition du corps de soi, le fait de s'endimancher.
Et une mise en scène de soi-même. En fait.
Voilà, là il faut faire attention, parce que pour aller à la messe, traditionnellement, penser au rameau pour les femmes, il fallait s'endimancher. Donc il ne faut pas dire que le fait de s'endimancher est une conquête de la fin du 19e siècle. Mais dans les milieux ouvriers, pour paraître, pour aller se promener sur les grands boulevards à Paris, il vaut quand même mieux, en famille, s'endimancher. C'est une autre façon, en quelque sorte, une autre racine de l'exhibition du soi par le costume du dimanche. Cette habitude du costume du dimanche serait intéressant de savoir à quel moment elle a fléchi, d'ailleurs. Je pense que dans les années 50, à bien des gens dans les campagnes, on disait « tu vas mettre ton costume du dimanche ». Ce qui paraîtrait aujourd'hui, à la limite, absurde, je ne sais pas. Hein, j'invite un historien à se pencher sur cette évolution de la notion de costume du dimanche.
D'ailleurs, on retrouve cette notion d'endimanchement encore à l'époque du Fonds populaire. Par exemple, dans le fameux film de Julien Duvivier, La belle équipe. Donc voici un extrait, une chanson interprétée par Jean Gabin, « Quand on se promène au bord de l'eau ».
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui à part d'eux, qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Quand on se promène au bord de l'eau.
Toujours, toujours les mêmes thèmes. Alain Corbin, Paris au loin, d'une prison, couleur de la grisaille. À quoi s'oppose le bleu, le vert de la campagne à distance, au-delà de la banlieue.
Oui, presque toutes ces chansons vont dans ce sens. Et tout ça a milité en faveur du dimanche. Et donc de l'obligation du repos hebdomadaire ou dominical.
Alors il y a une rencontre qui est au fond assez curieuse parce que elle fait se rejoindre les deux grandes familles politiques de sensibilité du moment. C'est une rencontre en fait avec l'Église, même si elle ne veut pas faire la même chose en fait du loisir dominical. L'Église n'a pas cessé tout au long du 19e siècle de défendre l'idée du dimanche, et d'ailleurs c'est une continuité jusqu'à aujourd'hui. Je lisais dans Le Monde récemment un point de vue du primat de Gaulle, le cardinal Barbarin, qui allait exactement dans le même sens.
Et ça c'est très important, parce que on pourrait être étonné de voir que nombre de républicains, nombre de laïcs, ne sont pas favorables au repos dominical, alors que tant de phénomènes sociaux, scientifiques, moraux, syndicaux poussaient au repos dominical. Mais cela s'explique. Le repos dominical, c'était instauré, l'obligation du repos dominical, c'était jeter les masses dans les bras de l'Église.
Chez eux, en fait, le souci politique s'oppose à la préoccupation sociale.
Or, les républicains multipliaient les lois pour dégager, en quelque sorte, la société française, émanciper la société française de cette emprise cléricale. Toutes les lois sur l'enseignement qui sont bien connues. Donc, imposer le repos dominical, c'était favoriser l'Église. Et ça explique la réticence de nombreux politiciens, voire socialistes, à tous les projets de loi concernant l'obligation du repos dominical. D'autre part, lorsqu'il a été voté, les républicains souligneront bien la nécessité de parler de repos hebdomadaire et non pas dominical.
Oui, nous faisions déjà
la loi de 1906.
Nous faisions la distinction tout à l'heure, elle est essentielle.
Et j'entends assez souvent à la radio aujourd'hui, à propos de la loi 1906, l'expression repos dominical, en fait, c'est repos hebdomadaire.
Vous ne l'entendrez assurément plus après cette émission. Chacun ayant été mis en garde. Effectivement, à l'époque, les questionnaires des visites pastorales reflètent constamment la crainte de la profanation du jour du Seigneur qu'on va jusqu'à associer au blasphème.
Oui, les sermons, les homélies dans les paroisses, les lettres et les mandements épiscopaux sont... On ne les compte plus à ce propos. Ça s'explique, puisque ne pas imposer le repos dominical, c'est mettre en péril, évidemment, la célébration des offices, l'assistance à la messe, etc.
C'est un point où les pasteurs, d'ailleurs, rejoignent les prélats, par exemple.
Ils faisaient plus, même. Ils étaient plus vifs encore. Oui, les protestants sont plus vifs.
Le célèbre pasteur Léopold Monod, qui dit que le dimanche offre, je cite, un repos où se nourrissent les saintes déterminations, où se développe l'énergie personnelle, où se forme le caractère. Il y a une tonalité huguenote de surcroît dans ce propos.
Ouais. Alors, évidemment, il y a toute une série de penseurs, il ne faut pas exagérer, il y a toute une série de penseurs socialistes qui se sont montrés favorables au repos hebdomadaire.
Ils ont déjà été divisés, les socialistes, dans ça.
Ils ont été divisés, mais déjà dans la première génération, si vous voulez, Auguste Comte ou Proudhon, Pierre Leroux, ont été favorables. Et surtout Jean Jaurès par la suite. Jean Jaurès qui a consacré un petit ouvrage à la question, pour montrer tout cela.
C'est pas toujours que Proudhon, dans sa jeunesse, avait publié un opuscule qui avait été primé, sauf erreur, à l'Académie de Besançon, qui s'intitulait « De la célébration du dimanche, considérée sous les rapports de l'hygiène publique, de la morale, des relations de famille et de cité ».
Il y a aussi de grands politiciens qui ont été très tôt favorables, Jules Simon par exemple, le sociologue Frédéric Leplay, et alors quelqu'un qui m'est très cher, le célèbre père Lapudeur, le sénateur Béranger, qui voulait l'abolition de la prostitution, qui était à la tête des ligues de moralité.
C'est un des héros de votre livre consacré à la prostitution à l'époque,
filles
de noces.
C'est assez logique que le sénateur Béranger ait été favorable à la moralisation par le repos dominical. Il y a aussi les arguments des gens qui sont contre. Parce que il faut bien l'expliquer. Alors, j'ai fait allusion aux anticléricaux. Les anticléricaux qui veulent absolument que l'Église ne dispose pas des travailleurs et de la masse de ses fidèles ne domine pas en quelque sorte cette journée du dimanche. Mais il y a aussi une certaine réticence, ça se comprend. Pensez à la situation actuelle aussi, hein. Il y a aussi une certaine réticence de la part de nombre de patrons. Pas tous, mais nombreux patrons ont envie de faire travailler leurs ouvriers le dimanche.
En expliquant dès ce moment-là que c'est dans l'intérêt même des ouvriers, puisqu'ils garderont plus d'argent, travailler plus pour gagner plus.
Alors cette idée que l'obligation du repos hebdomadaire pourrait entraîner une baisse de salaire, alors là c'est un des leitmotifs de toute la presse qui est hostile à cette mesure. Et puis il y a aussi une sorte de méfiance.
Mais pourquoi une baisse de salaire?
Parce que évidemment, celui qui travaille 7 jours va être payé 7 jours, celui qui travaille 6 jours va être payé 6 jours. La logique du temps. Donc, c'est la peur d'une baisse de salaire qui est aussi mise en avant.
Est-ce qu'il y a déjà l'idée qu'on paiera un peu plus le dimanche, si on travaille le dimanche?
Je ne l'ai pas rencontré.
C'est une notion moderne, contemporaine.
Oui, je pense. D'autre part, il y a l'idée aussi que, quelque part, ça porte atteinte à la liberté du travail. Ça porte atteinte au libre choix. Et que, dans cette mesure, il y a quelque chose qui évoque la disciplinarisation du travailleur.
Sans avoir l'oreille très fine, on entend cet argument aujourd'hui.
Or, la disciplinarisation du travailleur, c'est une des grandes craintes. C'est d'ailleurs un des grands processus. De la fin du 19e siècle, ça a bien été montré. À propos des mines, par exemple, il y a toute une série de thèses déjà anciennes qui montrent comment les ingénieurs ont réussi à discipliner dans les mines, mais aussi dans l'ensemble des usines. Les travailleurs, ça conduit à la taylorisation. Hein. Donc, l'idée que de trop intervenir dans ce domaine, ça peut être dangereux. Et puis alors, il y a un argument que j'entends, moi, actuellement, mais que l'on peut lire de cette époque, c'est que la France va produire moins. Et si la France produit moins, c'est la prospérité nationale qui est en cause, qui est menacée, si vous voulez. Alors, au nom de la prospérité nationale, on voit des tracts, si vous voulez, hostiles à la loi sur le repos hebdomadaire.
Tout cela explique pourquoi il a fallu du temps, beaucoup de temps, en somme, pour qu'on adopte en définitive la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, après une campagne tout à fait passionnée. Écoutez ce chansonnier qui évoque, à l'époque, c'est une archive de 1906, qui évoque cette loi, c'est Victor Lejal.
Le Parlement, dans un but humanitaire, tient voter ses patents, le repos hebdomadaire. Le dimanche maintenant, adieu le collier de misère. L'atelier, le magasin sont déserts et dès le matin, ouvriers, tailleurs, employés, coiffeurs, heureux chantent tous en cœur. C'est le jour du repos hebdomadaire. Ils n'ont voté nos bras débutés, c'est jour de liberté. Faut en profiter pour vivre à peine les fers, soit du canot, soit du vélo, c'est le jour du repos. L'autre nuit, rentrant chez moi, au détour d'une rue obscure, j'aperçus plein témoin un type de mauvaise figure. Redoutant, ça se conçoit la fin de cette aventure. Afin de l'esquiver, je m'apprêtais à me sauver. Mais la page me dit, à pas peur, profite, t'as de la veine, car aujourd'hui, c'est mon jour de repos. De repos hebdomadaire, la société l'ayant dégradé, y a pas à vous péter. Sans quoi, j'aurais bien déjà fait ton affaire. Crains rien, mon gros, pour tes sales gros, c'est mon jour de repos.
Un certain nombre des arguments qui ont été agités en 1906, et en même temps ça renvoie à cette surprise qu'on peut avoir de considérer que dans certains cas les républicains se trouvent un peu à front renversé par rapport à l'Église catholique.
Oui, ça c'est essentiel, parce que on pourrait s'attendre à voir les républicains, voire une partie des socialistes, qui sont partisans du progrès, aller dans le sens du repos dominical. Mais ils sont retenus sur cette route par la crainte de l'Église.
Alors qu'ils ont porté toutes les autres limitations du travail, sauf celle du dimanche.
Oui, ils sont en quelque sorte pris mal à l'aise. Et ça explique pourquoi la France est pratiquement la dernière des pays d'Europe à voter la loi sur le repos hebdomadaire et non pas dominical. Les protestants et toute l'Europe du Nord l'a fait très tôt. Tous les pays du Nord, les îles britanniques, la Suisse 1877, les empires centraux, tous ces États ont voté la loi avant la France. Même l'Espagne 1904, deux ans avant. Il reste, je crois, que l'Italie et la France après cette date-là. Mais encore une fois, ce qui l'explique, c'est la réticence des républicains, par ailleurs partisans du progrès, d'abandonner en quelque sorte à l'Église les masses par un repos dominical, alors qu'eux-mêmes luttaient contre le cléricalisme.
C'est un ressort qu'on ne trouverait plus guère aujourd'hui, me semble-t-il.
Ben voilà. Il y a beaucoup de choses qui évoquent la situation actuelle dans ce qui est, nous avons vu à propos des années 90, au début des années 1900, mais il y a cette différence, que le cléricalisme, je crois, n'entre plus trop en ligne de compte, et l'anticléricalisme non plus, étant donné la baisse de la pratique d'ailleurs. Je crois qu'aucun anticlérical n'aurait véritablement à craindre que l'Église n'impose son emprise par la libéralisation du dimanche.
Disons aucun laïc. Je voudrais que vous nous aidiez à restituer ce qu'ont été les débats qui ont précédé l'adoption de cette loi 1906 sur le repos hebdomadaire.
Oui,
c'est intéressant de faire écho.
On l'a déjà évoqué, mais je crois que maintenant on peut mieux comprendre ce qui s'est passé. Outre les associations qui se sont créées de part et d'autre, associations cléricales, associations protestantes, associations au contraire hostiles à la loi.
Professionnels, les employés de commerce.
Oui, et la presse spécialisée, les brochures, les conférences, mais il y a aussi des manifestations. Et une mesure qui a été très pratiquée, c'est le boycott. Le boycott des magasins qui continuait de travailler le dimanche, si vous voulez. Ça a été une des mesures qui a précédé la loi.
Je ne pense pas que ce soit vraisemblablement quelque chose qui va se constater si certains grands magasins sont ouverts.
Je crois que ça serait assez inopérant aujourd'hui. Et lorsque la loi a été votée, en 1906, 10 juillet 1906, par conséquent, c'est la loi, du moins, du 10 juillet 1906.
Elle est promulguée ce jour-là.
Il a fallu prendre toute une série de précautions d'indiquer, et c'est d'ailleurs toujours le cas, mais je pense que depuis, tous les régimes exceptionnels se sont multipliés. Mais dès la loi de 1906, il y a toute une série d'exemptions, de régimes exceptionnels. C'est un repos hebdomadaire partiel, finalement.
Et c'est exactement autour de cela qu'aujourd'hui, les débats parlementaires, les débats dans la presse tournent.
Ouais.
Quel type,
voilà.
Tout le monde admet qu'il faut des exceptions.
Oui.
Mais quel type, combien, jusqu'à quel point, avec quelle fréquence, de semaine en semaine, etc.
Au moment de 1906, l'agriculture, la pêche et la domesticité, parce que comment voulez-vous que le bourgeois puisse vivre une journée sans domestique à l'époque?
Je n'ose pas l'imaginer.
Ça aussi, ça a beaucoup changé.
Je n'ose pas l'imaginer.
Hein? Puis le régime exceptionnel, en plus de ces grandes masses. Hein? Alors, il faut tenir compte de la sociabilité du dimanche, notamment dans les petites villes. Notamment dans les campagnes. Dans les campagnes des bocages, par exemple, les paysans affluaient au bourg le dimanche. Il fallait que tout soit ouvert le dimanche matin, au moins. Sinon, ça n'aurait pas eu de sens. C'est la vie sociale qui se serait arrêtée. À la sortie de la messe dans une petite ville épiscopale, ne pas pouvoir aller acheter son gâteau, ça aurait été aussi quelque chose de terrible. Par conséquent, les débits de boissons, les hôtels et les tabacs sont rentrés dans la liste des régimes exceptionnels. Mais de la même façon, les commerces d'alimentation, plus largement, sont aussi rentrés dans cette liste, ainsi que, bien entendu, les hôpitaux, les asiles, les hospices. Mais il y a d'autres régimes exceptionnels dès cette loi de 1906, ce qui concerne les spectacles. Sinon, ce serait le sombre dimanche, le dimanche mortel, en quelque sorte, dans les villes, avec ce fantôme du dimanche des Anglais, qui est conçu comme sombre dimanche.
Donc on nous dit que le Premier ministre Gladstone, par exemple, se targuait d'avoir toujours, toute sa vie, quel fût le poids des affaires publiques, respecté
Sans vanter. Respectait toujours le repos dominical.
Je ne sais pas si c'était un point de désaccord avec son grand adversaire d'israéliste.
Je ne sais pas.
Puisque vous parlez de l'ennui éventuellement mortel, évidemment, je vous dois d'écouter la chanson si célèbre de Juliette Gréco, « Je hais les dimanches ».
Tous les jours de la semaine sont vides et sonnent le creux. Mais il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Je hais les dimanches. Je hais les dimanches. Dans la rue, il y a la foule des milliers de passants. Cette foule qui coule d'un air indifférent. Cette foule qui marche comme un enterrement. L'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. Je hais les dimanches. Je hais les dimanches. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis parti prier. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps tout flanqués de soleil qui effacent en brillant les soucis de la veille. Les dimanches pleins de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux aux timides serrements et de fleurs aux branches et de fleurs aux branches. Et parmi la cohue des gens qui, sans se presser, vont à travers les rues, nous irions nous glisser, tout de main dans la main, sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain, n'ayant pour tout espoir que d'autres dimanches, que d'autres dimanches. Et tous les honnêtes gens que l'on dit bien pensants, et ceux qui ne le sont pas, mais qui veulent qu'on le croie, ceux qui vont à l'église parce que c'est la coutume, et qui changent de chemise et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures car rien ne les en empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière, et ceux qui font l'amour paraissent qu'ils n'ont rien à faire, envire notre bonheur. Tout comme j'envie le leur d'avoir des dimanches, d'aimer les dimanches, de croire aux dimanches. Quand je hais les dimanches.
Sous cette haine ambivalente des dimanches par Juliette Gréco, on retrouve, me semble-t-il, Alain Corbin, beaucoup des thèmes que vous venez d'évoquer avec moi.
Oui, elle évoque tous les comportements et toutes les pratiques qui sont caractéristiques des dimanches, et cela l'ennuie. Hein, bon. Mais déjà un siècle auparavant, Baudelaire avait souligné le malaise que l'arrêt du fonctionnement de la machine urbaine, les dimanches, créait sur lui. Et je crois que c'est ce qu'exprime Juliette Gréco, c'est-à-dire qu'on est habitué à un certain rythme, à un certain fonctionnement, ne serait-ce que auditif, si vous voulez, de la société, et que le fait qu'il soit perturbé par l'arrêt des machines, l'arrêt de nombre d'activités dans la ville, crée un autre monde qui peut désorienter, il peut créer un désarroi qui est souvent exprimé au XXe siècle, les sombres dimanches. Et ça contredit évidemment la distraction du dimanche, mais ça montre aussi la difficulté parfois de se retrouver face à soi-même sans travail. Et donc, on en arrive à la notion d'ennui. Est-ce que cette rupture, en quelque sorte, des rythmes de travail ne risque pas, chez certains, de créer, ou chez certains, ou à certains moments, chez tout le monde, de créer un certain ennui? C'est donc une des conséquences de la loi de 1906, qui est très caractéristique de sentiments des années 30. On le retrouve dans la chanson et au cinéma. Je crois qu'aujourd'hui, la chanson de Juliette Gréco apparaîtrait décalée, non? Je pense que ce n'est plus à la mode.
Vous voulez
de
dire
parler
que...
des sombres dimanches, ou de l'ennui des dimanches, ou des suicides du dimanche. Non, c'est une impression, je ne sais pas.
Je ne connais pas les statistiques si on se suicide
non.
plus
non, non,
le
qu'est-ce
dimanche.
Que vous en pensez, je ne sais pas.
Ça sera le sujet d'une autre émission, assurément. Mais terminons plutôt celle-ci, si vous voulez bien, par une réflexion sur l'effet de cette sécularisation de notre temps que vous évoquez tout à l'heure, qui en somme, quoique soit permanente, beaucoup de données, change véritablement la situation.
Oui, c'est d'ailleurs le grand changement, à mon sens. Si l'on compare les débats de la fin du XIXe siècle aux débats auxquels nous assistons aujourd'hui, c'est la grande différence. C'est-à-dire, je l'évoquais, la fin de la crainte de l'emprise cléricale, mais plus largement, une désacralisation du temps, désacralisation de toute la charpente temporelle. C'est vrai aussi des cycles liturgiques, si vous voulez. Je ne veux pas dire par là qu'il n'existe plus, que l'Église n'a plus d'importance. Mais enfin, les statistiques de la pratique montrent bien, d'une part, une baisse très nette, mais surtout, le fait d'aller à la messe, enfin, l'obligation de la messe dominicale, peut très bien être satisfaite le samedi. Mais encore une fois, c'est la désacralisation de l'ensemble de la charpente temporelle qui fait qu'on n'en parle plus. Aujourd'hui, pratiquement, dans les débats, vous avez cité le cardinal Barbarin, mais c'est quand même une voix relativement isolée, me semble-t-il. Autrement dit, les arguments de 1906 se retrouvent aujourd'hui, mais ils se retrouvent réaménagés et hiérarchisés d'une nouvelle manière. Et d'autre part, il y a là cette pratique du week-end qui, après la semaine anglaise, hein, a beaucoup modifié les choses.
Eh bien, nous allons lire et nous allons entendre les débats très prochains du Parlement sous la lumière que vous venez de jeter avec une attention assurément aiguisée. Merci beaucoup. Merci Alain Corbin. Vous avez traité de cette question dans le cours d'un livre qui s'appelle, un livre collectif que vous avez dirigé, qui s'appelle L'avènement des loisirs, des 1850 à 1960, auquel je renvoie nos auditeurs, d'autant plus facilement qu'une édition de poche dans la collection Champs Histoire chez Flammarion paraît ces jours-ci. Je veux aussi rendre hommage à un livre qui a été très remarqué, que vous avez publié il y a quelques mois, qui s'appelle « L'harmonie des plaisirs, les manières de jouir du siècle des Lumières à l'avènement de la sexologie », édité chez Perrin. Et puis il faut rendre hommage, toujours sur la question du dimanche, au livre de Robert Beck, « Histoire du dimanche de 1700 à nos jours », publié aux éditions de l'Atelier en 1997. Vous retrouverez toutes ces informations et les références des documents sonores, des chansons essentiellement que nous avons utilisées sur le site internet de France Culture à la page Concordance des temps. Et vous pourrez également, vous le savez, réécouter et télécharger cette émission et, si vous en avez le goût, nous écrire. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration d'Agnès Chauveau, avec Meryl Moneghetti, Patrick Molinier, Éric Villenfin, Virginie Gresset, et pour les Archivina, Véronique Jolivet. Vous venez d'entendre une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 3 janvier 2009 et qui s'intitulait « Le dimanche, repos depuis toujours » avec un point d'interrogation. Mon invité était Alain Corbin. La semaine prochaine, nous nous retrouverons autour d'une émission sur le thème des leçons de Jules César pour les dictateurs contemporains, en compagnie de Christian-Georges Schwentzel.